adoptée définitivement par le Sénat en juillet 2019, la loi interdisant les violences éducatives, plus connue sous le nom de loi anti-fessée, vise à faire évoluer les mentalités vers un plus grand respect de l'enfant. L'occasion de nous demander aujourd'hui dans PsySP, qu'est-ce que punir signifie? Est-ce une bonne solution de punir les enfants? Est-ce possible d'éduquer et d'avoir de l'autorité sans punir? Ce sont les questions que nous abordons aujourd'hui pour ce deuxième volet des émissions consacrées à la sanction.
PsySP avec le père Jean-François Noël, Dialogue RCF.
Bonjour à tous et bonjour père Jean-François.
Bonjour Sophie.
Alors cette question, est-ce qu'il faut punir les enfants? Comment? Qu'est-ce que vous en pensez?
Voilà, alors est-ce qu'il faut punir? Déjà, on sent bien qu'il y a une injonction morale rude et que, voilà, partie comme ça, évidemment, on va plutôt dire non. Est-ce qu'il y a une nécessité, voilà, de la, comme on disait, de la sanction, de la, du désignation de la faute? Moi, je pense que oui. De fait, contrairement aux apparences, ça sécurise les enfants qui aient du cadre. Et sinon, il est sous l'emprise, c'est le cas de le dire, il est sous l'emprise de ses pulsions et on voit bien qu'un enfant, voilà, quand il commence à s'énerver, qu'il commence à paniquer, s'énerver, enfin, il n'a pas les moyens de l'autorégulation. Et donc, il vit l'expérience d'une espèce d'explosion de lui, quoi. Un enfant en colère, un enfant jaloux. Je ne suis pas sûr que la parole consolatrice ou régulatrice des parents suffise. Il faut aussi dire que là, il y a un garde-fou, au sens étymologique du terme, pour que soit désigné que l'au-delà est dangereux pour lui et pour son entourage. Donc, un plus long comme on veut, mais comment dire, un discours rassurant et explicatif, comme je l'ai dit dans la première émission. On a toujours pensé que quand on sait, on peut, mais non, pas du tout. Sinon, excusez-moi, vous et moi, on ferait plus de faute, quoi. C'est pas parce que je les ai expliqué qu'il faut pas que je sois jaloux que j'éprouve pas de la jalousie ou de la colère contre un tel et un tel. Pas parce qu'on me dit que j'ai con. Ah oui, mais je suis très en colère. Mais ça change rien à ma colère. Il va falloir que je trouve un levier de changement par rapport à l'affect qui m'emprisonne et qui n'est pas simplement d'en avoir conscience.
Alors, je pose ma question différemment. Est-ce que punir, c'est un signe d'autorité?
Oui, au sens étymologique du terme, à savoir que quelqu'un a souci de me faire grandir. Et c'est ça, l'autorita, c'est-à-dire, effectivement, c'est pas le pouvoir que j'exerce sur. C'est que quelqu'un a souci qui a sur moi un regard d'espérance. Voilà, c'est ça, la sanction, elle doit être, comme on va le voir aujourd'hui ou la semaine prochaine, il faut qu'elle soit désarmée de vengeance, ça c'est important, et en même temps, elle doit être pleine d'espérance pour que je devine que tout en étant fautif, je ne suis pas condamné.
Une sanction donc accompagnée d'amour, de tendresse?
De bienveillance, de chasteté, d'une attention profonde.
Alors comme vous me connaissez bien, vous savez que j'ai repris mes bonnes vieilles habitudes. Je suis retournée à la gare Saint-Charles pour interroger les passants. Je leur ai demandé si punir les enfants était la bonne solution. Voici ce qu'ils m'ont répondu. On écoute le micro-trottoir et on en discute juste après.
Bah écoutez, il y a des moments, oui, il faut les punir, je pense. Parce que si on leur dit toujours oui ou amen, à un moment donné, ils ne vont pas comprendre pourquoi dans la société on va leur dire non.
Sur les punitions, quand on parle d'interdire la fessée, qu'est-ce que vous en pensez, vous, de ça?
Bon, alors après, une fessée, c'est une fessée, quoi. Hein. Il ne faut pas taper l'enfant jusqu'au sang, hein, soyons clairs. Hein. Une petite fessée, moi, j'ai déjà donné à mes enfants, à mes petits-enfants, voilà, pour leur faire comprendre certaines choses. Mais...
En tout cas, de leur donner des limites, oui. Après, punir, dans certains cas, oui. Bon, pas forcément punir en tapant, bien sûr. Hein. Pour donner des limites, parfois, il faut, oui.
Moi, enfin, j'ai pas d'enfant, mais je dirais je suis contre les punitions. Ouais, je voudrais pas le punir, plutôt le convaincre, et puis voilà.
Après, il faut dire, bon, on est deux sœurs. Donc, nous, on n'a pas été punis, en fait. Au point où j'ai parfois inventé des punitions. Pour être comme les autres, sans doute, en disant, oui, les parents m'ont pas autorisé à faire ci, à faire ça, alors qu'on avait des parents qui nous punissaient pas, pratiquement pas.
Ils nous faisaient confiance, les parents, et du coup, on s'auto-limitait, enfin, on dépassait par certaines bornes, quoi. Enfin, qu'on s'était fixé nous-mêmes. C'est pas eux qui nous disaient, t'as pas le droit de ceci ou cela. Enfin, on peut pas dire auto-sanctionner, mais, hein, c'est ça?
Oui. Non, mais j'étais en train de réfléchir si j'ai puni mes enfants. Quelles étaient les punitions?
Je crois pas.
Ben, je crois pas non plus.
Alors, qu'est-ce que vous en pensez de... J'ai l'impression que les deux sœurs, là, de la fin, elles vous ont plu.
Ah ouais, c'était très intéressant, le fait qu'elles se sont auto-punies, enfin, où elles ont inventé des limites pour pouvoir délimiter ce qui était bien ou pas bien, ou autorisé ou pas autorisé. Et alors, c'est très intéressant, parce que, en fait, la punition va aider à mettre en place ce qu'on appelle le surmoi. Donc, le surmoi... C'est le gendarme intérieur, on pourrait dire. La règle, la loi, c'est la fonction paternelle.
Il y a... Le surmoi, vous pouvez nous réexpliquer, parce que ça, c'est un terme freudien, là, je sens.
Oui, c'est comme vous avez bien senti. Alors, en fait, il y a trois instances psychiques, donc il y a comme trois étages. L'étage central, c'est le moi, c'est voilà ce que j'essaye de faire. Et ce moi négocie avec deux autres étages, un qui est en dessous et un qui est au-dessus, d'accord ? Celui qui est en dessous, c'est les pulsions, c'est ce grand sac d'énergie, c'est magnifique, mais en même temps, c'est complètement fou, quoi. Si je faisais tout ce que mes pulsions me demandent, voilà, je mangerais le frigo ou je... Hein, bon, donc, je mange pas tout le frigo, mais je mange là, pour parler des pulsions de manger, par exemple. Donc, on a un sac d'énergie qui doit être régulé, il est régulé par ce qui est au-dessus, le surmoi, qui est une forme de régulateur, on dit à un enfant, la propreté, par exemple, ça va constituer, c'est le surmoi qui va dire, ça c'est propre, ça c'est sale, les enfants sont très exhibitionnistes en général, ils déshabillent un peu partout, tu te déshabilles pas dans ta chambre, et puis ce surmoi va mettre en place l'identité, donc c'est un acteur de subjectivation de l'enfant, c'est très important. Et il faut qu'il soit équilibré, après il peut devenir, s'il est trop fort, il peut devenir despotique. Mais ce que je constate et que d'autres psys ont constaté avec moi, c'est quand le surmoi parental est faible, l'enfant se crée un surmoi despotique pour remplacer. Alors, c'était pas le cas des sœurs qui ont dû réguler ça, la trop grande autorisation des parents. Mais on trouve... Alors, d'ailleurs, ça peut être des surmois extrêmement négatifs. Hein. Les terroristes ont des surmois très forts. Je dois tuer... les mécréants parce que. Je veux dire, le surmoi c'est pas qu'un gendarme gentil ou un gendarme pour la morale. C'est un gendarme qui est une voix impérieuse d'autorité en soi. Et donc, parfois, évidemment, c'est beaucoup plus facile de dénoncer le surmoi chez les catholiques un peu coincés où il faut pas penser ça, il faut pas dire ça, etc. Ça, c'est des surmois trop forts. Mais il peut y avoir des surmois chez les criminels. D'un comprendre que quand la figure paternelle, le surmoi est faible chez la figure paternelle, par compensation, comme vous l'avez entendu chez les sœurs, mais c'est plus modéré chez les sœurs, on va se créer un surmoi de compensation. Parce que c'est un équilibrage. Et donc, il vaut mieux qu'il y ait un surmoi contre lequel on va pouvoir se révolter. Je ne suis pas d'accord, ça fait partie de la rébellion propre à l'adolescence que de ne pas être d'accord avec le père. Pour autant, voilà, on ne va pas mourir, mais c'est comme ça, pour pouvoir s'approprier son propre surmoi et s'émanciper de celui qui a été un peu l'échafaudage. Le surmoi parental, c'est l'échafaudage contre lequel, oui, moi, mes parents, c'est ça, j'aurais pas dû, d'ailleurs, je ferais pas comme ça avec mes enfants. Mon œil, hein. C'est marrant parce que ça rejoint, en fond, ça justifie et explicite un certain nombre de choses qu'on avait beaucoup, beaucoup critiquées quand on était enfant. Et que moi, je disais, c'est incroyable, ces parents, ils comprennent rien, etc. Mais maintenant que j'ai 65 ans, j'ai pas d'enfants, mais j'ai pas mal d'enfants autour de moi. Ils n'avaient pas si tort que ça, voilà. Donc, je revois un peu ma copie. C'est normal qu'on soit en rébellion. C'est fait pour ça. Les gens voudraient que tout soit linéaire, harmonieux. Mais non, notre psychisme et notre vie d'ailleurs, elle passe par des crises de différenciation, parfois même un peu de rébellion, voire sinon nous n'allons pas grandir. Comment, pourquoi cet idéal complètement d'une vie qui doit se passer de tout conflit? Mais une vie sans conflit, j'allais dire, c'est une vie morne et qui de fait n'apprend pas à grandir.
Alors je reviens sur ce que disaient ces deux sœurs. Vous avez entendu un moment, elles disaient, les parents finalement ils nous grondaient pas, mais ils nous faisaient confiance.
Oui, mais ça.
Donc ça a l'air, on a l'impression que ça, c'est possible d'éduquer sans punir.
Mais la chance que les parents ont eue, c'est que ces deux sœurs, elles avaient de quoi, elles avaient de quoi en elles-mêmes compenser la défaillance parentale. Mais ça d'ailleurs, je vais pas me faire que des amis, mais les parents, c'est fait pour ça, c'est fait pour être défaillant, hein, c'est bien clair. Et que des parents parfaits, c'est insupportable. Parce que c'est dans la défaillance des parents que s'inscrit l'histoire de chacun. Alors je vais m'expliquer, parce que c'est peut-être important à comprendre. Dès le début, il faut que la maman soit défaillante. Pourquoi ? Parce que c'est dans la défaillance de la maman que va s'inscrire la psychogénèse de l'enfant. Je prends un exemple. C'est ce que dit Winnicott. Il faut qu'une maman soit suffisamment bonne. Good enough mother. On oublie en général la suite de la phrase de Winnicott. Donc, pas une mère parfaite. Les mères parfaites, les mères qui viennent au devant de tous les désirs de l'enfant, la mère qui saute à chaque fois qu'il y a un problème, elle empêche l'enfant de gérer sa propre crise. Si à chaque fois que l'enfant hurle, on lui met un biberon dans la bouche, eh bien, l'enfant, il va avoir la bouche pleine du biberon et il n'aura pas le temps de quoi ? Bah, de dire un mot. Comment vient le mot et la pensée chez l'enfant ? C'est dans le manque. C'est parce qu'entre deux biberons, il n'y a pas de biberon. Et entre deux biberons, la bouche, elle est vide pour dire un mot. C'est quand même incroyable que ce soit au même endroit qu'on mange et qu'on parle. Et ce n'est pas fait, ce n'est pas un hasard, c'est une nécessité. C'est quand ma bouche est vide, que je n'ai pas le téton, ou que je ne suis pas rempli du lait de la mère, que je peux remplacer cette absence par un mot. Un cri d'abord, je vais hurler, ça je sais faire. Ensuite, je vais parler et ensuite, je vais dire des mots. Bébé, biberon, papa, maman, etc. Et c'est tout l'art de l'éducation, c'est de ménager un juste manque. Si la mère remplit à chaque fois parce qu'elle a peur de l'angoisse de l'enfant, si on vient au devant des désirs, j'allais dire, on endort l'enfant dans la naissance de sa conscience. Et donc, je finis parce que je ne l'ai pas dit tout à l'heure. La phrase de Winnicott, c'est « good enough mother ». Donc, je termine en français là. Pour que l'enfant puisse dire non et que la mère l'entende. C'est ça la phrase. Une assez bonne. Il faut qu'une mère soit assez bonne pour que l'enfant puisse dire non, qu'il retourne à ses affaires. Et que la mère l'entende et qu'elle ne l'étouffe pas. Je pense toujours à ce patient qui me racontait que la mère était tellement possessive et intrusive qu'un jour, il lui a mordu l'oreille pour se séparer, pour se dégager de l'étreinte dans laquelle elle enfermait. Et donc, vous voyez, là, on a l'impression que la mère, elle est tout à fait pleine. Non, elle est trop. Trop ou pas assez. Et c'est dans les justes mesures.
Je reprends ce que j'ai dit en introduction là sur la loi sur la fessée. Qu'est-ce que vous en pensez ? Il y a quelque chose aussi d'étonnant, même dans le micro-trottoir, quand on parle de fessée, c'est tout de suite assimilé à maltraitance, tout de suite. Hein.
Oui, parce que de fait, il y a eu tellement d'histoires de maltraitance et qu'on est dedans. C'est toujours le cas du balancier, c'est-à-dire on va, bien sûr qu'il faut dénoncer les féminicides, les maltraitances, et vraiment, on n'a jamais fini de civiliser notre société et nos familles. Mais pour autant, tombons pas dans le panneau inverse, c'est-à-dire de croire qu'effectivement, une famille toute pleine d'harmonie, en général, ça cache des conflits non éclatés. Et qu'il y a des problèmes. La famille est un lieu de crise. C'est fait pour ça, la famille. C'est pas fait pour vivre. Alors, bien sûr qu'il y a des moments de délices et de communion et de fou rire et de tendresse, bien sûr, mais il y a des moments de colère et d'explications. C'est un laboratoire pour qu'on puisse ensuite quitter la famille et aller s'exposer à la vie sociale. Et que c'est fait pour ça, une famille. C'est pas fait pour y rester. C'est fait pour y apprendre.
Merci beaucoup, Père Jean-François Noël. Notre émission se termine pour aujourd'hui, mais rassurez-vous, on poursuit notre discussion la semaine prochaine. On parlera de la culpabilité, comment y faire face. Je rappelle que vous pouvez retrouver cette émission ainsi que toutes les émissions Psy et Spi en podcast sur RCF. Merci de votre fidélité et à très bientôt sur RCF.
Espie avec le Père Jean-François Noël, Dialogue RCF.